Bonjour Charlotte. Donc, on va prier pour commencer ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cet instant. Instant, Seigneur, que tu avais préparé toute éternité afin de nous nourrir, afin de nous mettre au défi, afin de nous façonner à travers ta parole et l'exhortation, Seigneur, qui va être partagée. Nous prions, Seigneur, que ta parole puisse effectivement trouver un cœur qui a été travaillé, qui a été disposé à la recevoir, à l'accueillir et aussi, Seigneur, à être une terre fertile pour que cette parole puisse s'enraciner, croître et porter un fruit. Fruit que nous voulons agréable pour toi durant notre vie, mais aussi, Seigneur, pour le restant de l'éternité. Nous bénissons, Seigneur, nos frères et nos sœurs, où qu'ils soient, quel que soit, Seigneur, le moment où ils nous écoutent. Que cette parole, Seigneur, puisse porter un fruit, Seigneur, puissant et un fruit durable dans la vie de nos bien-aimés. En toute chose, Seigneur, que ton nom soit élevé, que tu reçoives toute la gloire, tout l'honneur et toute la puissance aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, encore une fois, que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous lisons dans Lévitique, chapitre 25, mais on va un peu plus loin dans le passage. On a lu depuis lundi du verset 1 au verset 7. Et aujourd'hui, on va avoir quatre versets, du verset 19 au verset 22. Donc, on vous invite à ouvrir avec nous dans Lévitique 25, du verset 19. On va même commencer au verset 18, en fait. 18 à 22. Et je lis pour vous, ainsi va la parole de Dieu. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites, que mangerons-nous la septième année, puisque nous ne sèmerons point et nous ne ferons point nos récoltes? Je vous accorderai ma bénédiction la sixième année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année, et vous mangerez de l'ancienne récolte. Jusqu'à la 9e année, jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Alors que Dieu bénisse sa parole encore une fois aujourd'hui. On continue notre étude sur le jubilé, et de façon plus particulière, sur la loi de la jachère sur la loi du repos de la terre. On a vu que le jubilé était constitué de 7 blocs de 7 ans et à chaque 7 années, Dieu demandait que le pays entre en jachère. Pour rappel, tout simplement, la jachère, c'est le fait de ne pas cultiver la terre, de laisser le terrain, de laisser la terre en repos. Donc Dieu disait, lorsque la 7e année va arriver, je ne veux plus que vous touchiez à la terre. Je ne veux plus que vous vous préoccupiez de labourer, de semer, de récolter, de moissonner, de vendanger. Je ne veux plus que vous vous occupiez de ça pendant toute la 7e année. Je veux que vous dépendiez de moi. Et ce faisant, bien entendu, la nourriture allait venir à manquer, du moins la nourriture habituellement obtenue par la culture traditionnelle des champs et par le soin qu'on donnait habituellement à la vigne. Et Dieu disait, ben, s'il arrive qu'effectivement vous me demandiez, mais que mangerons-nous, puisqu'à partir de la 7e année, tu nous demandes d'arrêter de récolter, d'arrêter de moissonner, d'arrêter de travailler la terre, que mangerons-nous? Et Dieu va leur dire qu'il va leur faire grâce et qu'en fait, la récolte de la 6e année va fonctionner pour la 7e, la 8e et jusqu'à la 9e lorsqu'on aura effectivement une nouvelle récolte d'arrivée. Mais que cette récolte de la 6e année serait bénie par Dieu du fait que son peuple le mettait en action ou mettait la foi en action en obéissance à Dieu. Et cette semaine, la jachère a été l'occasion de parler de la foi, de cette foi qu'on active, de cette foi qui honore Dieu et de cette foi à laquelle Dieu répond constamment. La Bible nous dit qu'on ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. Et ça, c'était une vérité dans l'Ancien Testament, c'est une vérité dans le Nouveau Testament, et pour nous qui sommes les suites de l'Église du Nouveau Testament, c'est encore tout à fait une vérité. Dieu se manifeste, Dieu agit, et Dieu est glorifié par la foi active de ses enfants. À travers ces trois ou quatre versets-là, on va faire sortir six points aujourd'hui, donc on va y aller brièvement pour chacun des points, en essayant d'illustrer ou d'expliquer un peu ce que ce passage peut nous dire. Relisons le verset 19. Le verset 19 nous dit, après que le Seigneur ait dit au verset 18 de mettre en pratique ses ordonnances et ses préceptes, le verset 19 nous dit, « Le pays donnera ses fruits, vous en mangerez à satiété et vous habiterez en sécurité. » Premièrement, ce qu'on doit en apprendre, c'est que la foi mise en action, c'est que Dieu va pourvoir à satiété. Lorsque j'accepte d'entrer dans cette dimension de la foi, lorsque je fais mes pas dans la foi, ce ne sont pas des pas que je fais de façon tentative. C'est pas des pas que je fais en présumant que peut-être, éventuellement, on sait jamais, il se pourrait que Dieu entre en action. Non. Lorsque j'avance avec la foi, la Bible nous dit dans Hébreux 11 au chapitre 1 que la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Ça veut dire que lorsque j'avance avec la foi, ce n'est pas tentationnellement ou tentativement. Ce n'est pas « je vais essayer pour voir si ça fonctionne » ou « je vais essayer pour voir si Dieu est effectivement fidèle ». J'avance sur ce que Dieu a proclamé, sur ce que Dieu a demandé, et j'avance basé, campé, fortifié par la parole de Dieu. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Malheureusement, plusieurs personnes disent avancer par la foi, mais avancent sur des présomptions. Lorsque nous disons avancer par la foi, il nous faut être campé, être basé sur ce que Dieu dit. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Ça peut être par deux facettes. Ça peut être par le rhéma et ça peut être par le logos. Le rhéma étant cette parole instantanée, ponctuelle de Dieu qui émane directement du trône de grâce et que Dieu donne d'une façon ponctuelle pour une situation, pour un fait particulier. Le logos étant cette parole révélée de Dieu, donc ce qu'on appelle la Bible, les Saintes Écritures. Et le rhéma, la parole ponctuelle qui pourrait se manifester sous forme de prophétie, sous forme de vision, sous forme de rêve, sous forme d'inspiration ponctuelle de la part de Dieu, sous forme de parole de connaissance ou de parole de sagesse, cette parole rhéma doit être appuyée elle aussi par le logos. Le rhéma ne peut pas aller en contradiction avec le logos. Alors, lorsque j'avance par la foi, lorsque j'avance basé sur le logos, basé sur ce que Dieu a proclamé, et ce faisant, je n'avance pas à tâtons. J'avance assurément guidé par l'Esprit Saint. Alors, lorsque j'avance comme ça, j'avance en sachant que Dieu va pourvoir à satiété. Pourquoi? Parce qu'il nous dit dans la parole de Dieu, il nous dit dans ce passage que si nous appliquons effectivement la loi de la jachère, nous mangerons à satiété. Il disait au peuple, si effectivement vous vous concentrez sur moi, si effectivement vous mettez votre foi en moi, si effectivement vous avez confiance que ma parole que je prononce actuellement est véridique, à ce moment-là, vous verrez que la septième année, la huitième année et même la neuvième année, vous mangerez encore de la récolte qui émanait de la sixième année. Basé sur la parole de Dieu, nous savons, la foi sait que Dieu pourvoit à satiété. Ça, c'est le premier point pour aujourd'hui. La foi sait que Dieu pourvoit à satiété. Dieu ne veut pas te laisser affamé. Dieu ne veut pas te laisser à demi rempli. Lorsque Dieu pourvoit, il pourvoit effectivement à satiété. Mais de surcroît à ça, il disait aussi que si nous appliquons sa parole, si nous appliquons ses préceptes, et dans le cas présent, la question du jubilé, avec tout ce que ça comporte, que ce soit la rémission des dettes, que ce soit le pardon des offenses, que ce soit l'affranchissement des esclaves, que ce soit aussi la pratique de la jachère pour la terre, la Bible nous dit, alors vous habiterez en paix et en sécurité dans le pays. Dieu disait, tant que vous respecterez mes ordonnances, ce faisant, vous vivrez dans la protection que j'accorde à mes enfants. Donc la foi sait que Dieu apporte paix et sécurité. La foi sait que Dieu apporte paix et sécurité. Et je reviens à cet exemple de la traversée du lac de Galilée, de la mer de Galilée, lorsque Jésus va dire « passons de l'autre bord ». Et les gens, les disciples vont monter dans la barque de Jésus. Jésus va se coucher au devant de la barque et en plein cœur de la traversée, le vent se met à souffler, la tempête arrive, la pluie bat des records de précipitation et le bateau commence à se remplir et les disciples paniquent. Et il réveille Jésus en disant, « Ne crains-tu pas que nous périssions? Est-ce que tu n'as pas peur qu'on va mourir? Est-ce que ça ne te fait rien qu'on soit dans cet état où nous allons mourir après que toi, tu nous aies dit qu'on devait traverser? » Et Jésus va se lever, va menacer la mer, va menacer le vent, va menacer la pluie, va leur ordonner de se calmer et le vent, la mer, la pluie vont se taire, vont se calmer. Et là, qu'est-ce que Jésus fait? La Bible nous dit que Jésus va reprendre les disciples en leur disant, « Homme de peu de foi, jusqu'à quand vous supporterai-je ? » Et Jésus semble frustré. Mais de quoi est-il frustré? Il est frustré de ce que ses disciples qui ont eu l'habitude de cheminer avec lui, ses disciples qui ont marché depuis déjà un certain temps avec lui, n'ont pas cru complètement, n'ont pas cru face aux éléments qui se déchaînaient devant eux, à la promesse que Jésus leur avait faite. Passons de l'autre bord. La foi vivante, la foi active, apporte la paix et la sécurité. Jésus dormait à la poupe parce qu'il savait qu'il avait une mission à accomplir de l'autre côté de cette mer de Galilée. Et il avait dit à ses disciples, nous passerons de l'autre côté. Lorsqu'il a dit passons, il a pas dit ça pour les détruire en plein cours de la traversée, pour les abandonner en plein cours de la traversée, pour les voir couler en plein cours de la traversée. Même chose, lorsque Jésus va dire à Pierre, viens, lorsque Pierre lui dit, hey, Seigneur, est-ce que c'est toi qui marches sur les eaux? Si c'est toi, dis que je vienne et je vais venir. Et Jésus lui dit, ben viens. Et Pierre se met à marcher, mais à un moment donné, il va douter. Et puisqu'il va douter, il va couler. Lorsque nous marchons dans la foi, lorsque nous marchons dans l'assurance que Dieu est avec nous et que Dieu veille sur nous, il y a un sentiment de paix que j'ai partagé avec vous hier par rapport à des expériences tout à fait personnelles. Et il y a un sentiment de sécurité, comme quoi peu importe ce qui arrive, que la tempête se déchaîne ou pas, je sais que je suis entre bonnes mains. Je sais que Dieu veille sur moi. Même si le vent se lève contre moi, même si la tempête se lève contre moi, même si on voit des précipitations comme jamais auparavant, je sais que Dieu veille sur moi. Alors voilà pourquoi je peux dire à mon âme, calme-toi, retourne à ton repos. Parce que l'Éternel t'a fait du bien. Tu as déjà expérimenté la grâce de Dieu. Tu as déjà expérimenté la fidélité de Dieu. Tu as entendu la parole de Dieu. Tu as entendu les promesses de Dieu qui dit que tu vas passer de l'autre bord. Alors mon âme, calme-toi. Je t'ordonne de te calmer parce que Jésus, parce que Dieu veille sur toi. Alors la foi, c'est que Dieu pourvoit à satiété, et la foi apporte la paix et la sécurité dans la vie de tous les jours. Le verset 20 et 21 que je relis pour vous aussi. Si vous dites que mangerons-nous la septième année puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes, je vous accorderai ma bénédiction la sixième année et elle donnera des produits pour 3 ans. Donc si vous me demandez comment on mangera, je vous réponds, je vous bénirai la récolte de la sixième année et vous mangerez pendant 3 ans. La foi sait que Dieu veille sur ses enfants. La foi ne dit pas « je pense que Dieu veille sur nous ». La foi ne s'exprime pas en disant « j'espère que Dieu veille sur nous ». La foi ne dit pas « la Bible dit que Dieu veille sur nous, mais ». Il n'y a ni « mais », il n'y a ni « si », il y a « oui, Dieu veille sur nous ». Pourquoi veille-t-il sur nous? Parce qu'il l'a promis. Et parce qu'il l'a promis, il n'est pas un homme pour mentir comme les hommes le font. Donc la foi sait que Dieu veille sur ses enfants. Et voilà pourquoi Jésus est frustré avec ses disciples. Il dit, ne vous ai-je pas dit qu'on allait passer de l'autre bord? Un peu la phrase qu'il va dire à la sœur de Lazare, lorsqu'il lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et elle répond, mais Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est mort. On ne peut pas ouvrir le tombeau, son corps doit déjà sentir. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors il est important pour toi et pour moi de croire. Et encore une fois, je ne saurais m'arrêter de répéter que la foi n'est pas une chose de tentative. La foi n'est pas, en anglais, un wild guess. La foi n'est pas une présomption. La foi est une assurance. La foi est une assurance. Et cette assurance, je la base non pas sur un feeling, non pas sur une croyance, non pas sur un sentiment, mais je la base sur la parole de Dieu. Alors que je sente ou que je ne sente pas, que me dit la parole de Dieu? Que j'ai le feeling ou que je n'ai pas le feeling, que me dit la parole de Dieu? Que je vois les circonstances autour de moi favorables ou non, que me dit la parole de Dieu? Que les circonstances autour de moi me poussent dans le bon sens ou qu'elles essaient de me retenir, de me freiner, voire même de m'anéantir. Que me dit la parole de Dieu? La parole de Dieu me dit qu'il veille sur moi. Alors je sais que Dieu veille sur ses enfants. Et si effectivement je suis son fils, si effectivement tu es son fils ou tu es sa fille, tu dois savoir que Dieu t'aime et que Dieu veille sur toi. Ce que tu dois savoir aussi, c'est que Dieu n'est pas pingre, Dieu n'est pas radin, Dieu n'est pas économe dans sa bénédiction. Dieu est généreux dans son amour, Dieu est bon dans sa bonté. C'est redondant, mais j'aime le dire, Dieu est bon dans sa bonté. Dieu aime en abondance, la bonté de Dieu est abondante, elle se renouvelle à chaque matin, sa grâce, sa bénédiction, ses bontés se renouvellent à chaque matin. Dieu ne fait pas des économies sur toi en disant, ah ben lui, je vais juste lui donner un peu, il est capable de surmonter la chose par lui-même. Dieu te dit, si tu appliques ma foi, si tu appliques les règles que j'ai établies, voici ce qui va se passer. La récolte de la sixième année, miraculeusement, va te satisfaire pour la septième, va te satisfaire pour la huitième et va te satisfaire jusqu'à ce que tu puisses récolter de nouveau la toute première récolte. Jusqu'à ce qu'elle arrive, tu pourras encore manger sur l'ancienne récolte. Donc notre Dieu n'est pas pingre, n'aie pas peur de te réfugier près de lui, n'aie pas peur de lui faire confiance, parce que notre Dieu n'est pas avare, n'est pas économe, n'est pas radin, n'est pas pingre. Je ne sais pas quel autre qualificatif ou synonyme utiliser. Notre Dieu est abondamment bon. Notre Dieu est généreusement généreux. Notre Dieu ne fait pas de demi-mesure dans son amour et dans sa bonté. Il t'aime en abondance et il prend donc soin de toi. Il veille sur toi, il ne sera pas pingre ou avare ou radin dans sa provision à ton égard. Ce que tu dois savoir aussi, c'est que cette parole est donnée avant qu'on arrive dans la terre promise. Comme on l'a expliqué le premier jour, c'est en fait 40 ans avant qu'on arrive dans la terre promise que le Seigneur est en train de dire, voici ce qui va se passer lorsque vous arriverez à Canaan. La première année, je ne veux pas que vous cultiviez parce que ça sera une année de repos après ces 40 ans de pèlerinage. La première année, vous serez là tout simplement en observant un sabbat de la terre, en observant la jachère et vous me ferez confiance. Et non seulement vous me ferez confiance la première année où vous rentrerez dans Canaan, mais de surcroît à cela, à tous les 7 ans par la suite, vous me ferez confiance avec une année de repos pour la terre. À tous les 7 ans, vous observerez la jachère et vous me ferez confiance. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit tout simplement, je serai au rendez-vous. Je serai là pour prendre soin de vous la 6e, la 7e, la 8e, la 9e année. Et j'aimerais rajouter que pour que la récolte fonctionne la 9e année, ça sera encore à cause de Dieu. C'est lui qui aura pourvu la semence, c'est lui qui pourvoira le soleil, c'est lui qui pourvoira la pluie. Et non seulement la 9e année, mais aussi la 10e, et aussi la 11e, et aussi la 12e, et aussi la 13e. Et rendu à la 14e année, vous observerez encore une fois la jachère. Et encore une fois, je serai là au rendez-vous pour vous bénir. La foi sait que Dieu n'est pas pingre et la foi sait que Dieu est toujours au rendez-vous. Voilà pourquoi David pouvait dire, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, en fait, il dit même pas si, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Lorsque je suis dans cette vallée sombre où je ne vois rien, où je ne peux rien voir, même à une courte distance, je n'ai pas peur parce que je sais que tu es là. David n'est pas en train de dire « je sens que tu es là », il dit « je sais que tu es là ». David n'est pas en train de dire « je te vois là quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je t'y vois ». Non, David ne dit pas ça. David dit simplement « lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es avec moi ». Et parce que je sais que tu es avec moi, je ne crains aucun mal. La foi est cette ferme assurance, cette foi qui dit « j'ai cru lorsque tout allait bien et je crois encore aujourd'hui lorsque les choses vont moins bien ». Cette foi qui dit « j'ai cru lorsque tout était ensoleillé et maintenant que je marche dans la vallée sombre, dans la vallée obscure, dans la vallée opaque, je crois encore que tu es avec moi ». Pourquoi je le crois? Parce que tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais pas, que tu ne me délaisserais pas, que tu ne me rejetterais pas. Alors, basé sur cette parole, basé sur cette promesse, je sais que tu es avec moi. Même si mon âme me disait le contraire, même si mon esprit me disait le contraire, même si mon corps me disait le contraire, je dis à mon âme, je dis à mon esprit, je dis à mon corps, calmez-vous, retournez à votre repos, parce que je sais que l'Éternel est là, parce que je sais que Dieu campe à mes côtés. Donc la foi sait que Dieu est toujours au rendez-vous. Dieu te dit la 7e année, je vais pourvoir. Il te dit la 8e année, je vais pourvoir. Il te dit la 9e année, je pourvoirai. Il te dit la 10e année, la récolte sera à cause de moi. La 11e année, la récolte sera à cause de moi. La 22e année, la récolte sera à cause de moi. La 25e année, la récolte sera à cause de moi. La 35e année, la 48e année, la 49e année et même la 50e année, année du jubilé, encore là, la provision viendra de moi, la provision viendra de ce que je suis toujours au rendez-vous. Notre Dieu ne rate jamais ses rendez-vous avec ses enfants. Dernier point pour ce matin, pour conclure, le verset 22, un verset merveilleux encore. Vous sèmerez la 8e année et vous mangerez de l'ancienne récolte. Jusqu'à la 9e année, jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. La foi ne se lasse point de ce que Dieu pourvoit. On pourrait se tourner vers le Seigneur en disant, ouais, mais rendu à la 8e année, hey, ça fait quand même 2 ans ou 3 ans qu'on mange sur cette même récolte, le grain a changé de goût, il est plus sec, il est plus difficile à travailler, on aimerait avoir une nouvelle récolte. La nouvelle récolte va venir, mais la foi non seulement sait que Dieu pourvoit, mais la foi ne se lasse point de ce que Dieu pourvoit. La foi est en train de dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que l'huile n'est pas en train de descendre. Ça n'a aucun sens que la farine ne soit pas en train de descendre. Peut-être que quelqu'un dirait, ouais, aujourd'hui je veux de la farine de blé, demain je veux de la farine de maïs, la semaine d'après je veux de la farine d'avoine, la semaine suivante, je veux de la farine de sarrasin. Oui, on pourrait être difficile comme cela, mais la foi se réjouit de ce que Dieu pourvoit. La foi est en train de regarder le pot où on vient tout le temps ramasser de la farine pour faire un nouveau gâteau, et le lendemain matin, je reviens et la farine est encore là. Je me dis, il en reste juste une cuillerée, mais quand je prends cette cuillerée, je regarde dans le fond du pot, il y a encore une cuillerée, et je prends celle-ci, je regarde, elle est encore là, elle est encore là, elle est encore là. La foi se réjouit de ce que Dieu pourvoit. La foi ne se lasse point de ce que Dieu pourvoit. La foi n'est pas en train de médire sur ce que Dieu pourvoit. La foi ne méprise pas ce que Dieu pourvoit. Imaginez un peu cette veuve qui va voir le prophète en lui disant, « Regarde, tu me demandes un gâteau, mais je ne peux pas te le donner. Il me reste simplement un peu de farine et un peu d'huile. Alors, je vais préparer un gâteau pour moi et mon fils. On va le manger. Après ça, on mourra. » Et le prophète qui lui dit, « Fais exactement ce que tu as dit. Simplement, avant que tu ne manges, donne-moi un gâteau à moi aussi. » Et elle va aller, elle va préparer le gâteau pour le prophète, elle va lui amener, et quand elle rentre à la maison, la farine est encore là. Elle prépare un gâteau pour elle et la farine est toujours là. Elle prépare un gâteau pour son fils et la farine est encore là. Le lendemain matin, elle prépare pour le prophète et il y a encore de la farine. Elle prépare pour elle, pour son fils, et la farine est encore là. Et pendant 2 ans, la Bible nous dit que Dieu va renouveler non seulement la farine et l'huile, mais pendant 2 ans, est-ce qu'elle s'est réjouie? Combien peut-elle s'être réjouie de la provision de Dieu? Est-ce que toi, tu es en train de te réjouir de la provision de Dieu, ou à un moment donné, tu deviens difficile quant à la provision de Dieu? Tu dis, ah oui, c'est un miracle, effectivement, qu'il pourvoit tous les matins, mais j'aimerais bien qu'il change son miracle. J'aimerais bien qu'il fasse autre chose. Ou tu te dis, Seigneur, je suis même pas digne que tu fasses ce que tu fais. Seigneur, je ne suis pas digne que tu penses à moi. Je ne suis pas digne que tu pourvoies comme tu pourvoies. Pendant 40 ans, le peuple d'Israël qui avait critiqué Dieu, qui avait méprisé Dieu, qui s'était détourné de Dieu, qui à la première occasion s'était fait un veau d'or, hein, qui humiliait Dieu, qui méprisait Dieu. Et malgré tout, pendant tout ce périple, Dieu n'a eu cesse d'envoyer manne, la nourriture qui venait du ciel, et d'envoyer des cailles. Et le peuple était malgré là en train de se plaindre et en train de médire et en train de critiquer. Ne soyons pas un peuple au cou raide. Ne soyons pas un peuple qui se tanne, qui se fatigue de la provision de Dieu. Mais restons avec ce regard frais de la première occasion. Voilà pourquoi il est peut-être important de retourner à notre premier amour. Vous savez, c'est ce premier coup d'œil qu'on a donné sur Dieu, ce premier regard qu'on a lancé sur Dieu et qui était émerveillé, ébahi par la provision, par la grâce, par l'amour, par la bonté de Dieu. Retournons à cet état-là dans lequel on était peut-être il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, où on dit encore une fois, Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, je ne suis pas digne de ta grâce. Je ne suis pas digne de ta bonté. Je ne suis pas digne de ton amour, Seigneur. Mais encore aujourd'hui, je me réjouis de ta provision et je te remercie, Seigneur, pour ta grâce, pour ton amour, pour ta bonté envers moi. Alors voilà, ouais, je me suis un peu emporté ce matin. C'était la parole que Dieu avait pour nous. Alors qu'est-ce qu'on a vu ce matin? On a vu premièrement que la foi, c'est que Dieu pourvoit satiété. Deuxièmement, la foi apporte la paix et la sécurité. Troisièmement, la foi, c'est que Dieu veille sur ses enfants. Quatrièmement, la foi sait que Dieu n'est pas pingre, que Dieu n'est pas radin. Cinquièmement, la foi sait que Dieu est toujours au rendez-vous. Et enfin, la foi ne se lasse point de ce que Dieu pourvoit. Alors j'espère que cette parole ce matin vous a béni et fortifié. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta provision. Seigneur, nous activons notre foi ce matin et savons, Seigneur, et proclamons en dépit des circonstances et des situations, nous proclamons, Seigneur, que ta provision est parfaite, que ta provision est abondante, que ta provision suffit totalement et pleinement à assouvir ma soif, à assouvir ma faim. Seigneur, merci parce que cette foi qui se met en action, cette foi qui s'active, apporte la paix et la sécurité dans ma vie. Je sais, Seigneur, que tu veilles sur tes enfants et que tu veilles sur moi. Je sais, Seigneur, que tu n'es pas pingre, que tu ne fais pas d'économie sur mon dos ou sur ma tête. Mais, Seigneur, tu pourvois et tu pourvois en abondance. Je sais, Seigneur, que peu importe où tu me fixes rendez-vous, peu importe où tu me dis que nous allons, tu seras là. Et tu seras non seulement dans ma destination, dans mon point de destination, mais tu seras aussi à mes côtés tout au long du périple. Et Seigneur, je ne veux pas mépriser ta provision. Je ne veux pas mépriser et médire sur ta provision. Je veux simplement te dire merci. Merci de ce que tu pourvois, de ce que tu continues à pourvoir et de ce que tu es fidèle à ta parole. Seigneur, merci pour ta manne qui émane directement du trône de grâce. Merci Seigneur pour les choses que tu ne cesses de pourvoir. Et même si c'était le même miracle qui se renouvelait jour après jour, je voudrais encore, Seigneur, avoir ce cœur d'enfant qui s'émerveille comme le premier jour où il t'a vu agir, qui s'émerveille comme cette première fois où il t'a vu intervenir dans le danger, intervenir dans les situations difficiles qui étaient la nôtre. Je veux retrouver, Seigneur, ce cœur qui s'émerveille. Je veux retrouver cet amour du premier jour qui est là, ébahi, émerveillé par la bonté de ta générosité, par la bonté de ton cœur à mon égard et à l'égard de tes enfants. Merci Seigneur de pourvoir à ma sœur. Merci Seigneur de marquer la différence. Merci Seigneur de renouveler ta présence chez ma sœur et chez mon frère. Et qu'en toute chose, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Comme on a eu quelques problèmes de connexion, ça m'est difficile aujourd'hui pour saluer les gens. J'ai pas les noms qui s'affichent, mais simplement vous dire qu'on était heureux d'être avec vous ce matin. On a encore rendez-vous ce soir à 19h pour la Sainte Cène. Vous savez que, comme on l'a expliqué au tout début, Jésus, en fait, c'est le jeudi soir qu'il a mangé la Pâque avec ses disciples. Ce repas, cette Sainte Cène où il a dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous ». C'est le jeudi soir puisque le vendredi soir commençait le sabbat et que Jésus était déjà mis en terre le vendredi soir avant que le sabbat ne soit commencé. Donc, pour respecter tout simplement ce que la parole de Dieu nous mentionne, pour respecter simplement ce que Jésus lui-même a pratiqué, à ce moment-là, nous aussi, on prend la Sainte Cène pour Pâques, à l'occasion de Pâques, le jeudi soir. Donc, ça sera ce soir à 19h. On vous demande de vous préparer votre pain, votre coupe, et surtout de préparer votre cœur. Donc, la Sainte Cène est une chose qui est sérieuse. La Bible nous dit que ceux qui l'ont mangé indignement, que plusieurs sont tombés malades, que certains sont même morts. Donc, on veut faire attention quand on prend la Sainte Cène d'être en paix avec Dieu. Donc, est-ce que j'ai été effectivement racheté? Est-ce que je suis son enfant? Est-ce que je suis en règle avec ce qu'il demande et de surcroît à cela? Est-ce que je suis en paix avec mes frères et mes sœurs? En fait, c'est être en paix avec l'ensemble du corps de Christ. Donc, lui qui est la tête et l'Église qui est son corps. Mais de surcroît à cela, la Bible nous dit de pardonner. Alors, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, aujourd'hui, on vous invite à pardonner. Pas tout simplement pour prendre la Sainte Cène, mais parce que vous voulez être en règle avec Dieu. Donc aujourd'hui, assurez-vous de vous préparer pour ce soir, pain, coupe, et puis préparez votre cœur afin d'être en règle devant Dieu. On se retrouve demain matin par la suite pour notre temps de prière et demain soir, bien entendu. Alors sur ce, ah oui, dernier petit rappel, les inscriptions pour l'assemblée de dimanche ont déjà cours depuis dimanche dernier. Tous ceux qui avaient contacté l'église jusqu'à hier soir ont été appelé par la sœur Patricia, où elle vous a envoyé un message, un texto, un courriel, où elle vous a appelé. Donc, les quelques dizaines de personnes qui s'étaient déjà inscrites, plusieurs dizaines en fait, qui s'étaient inscrites, ont déjà été contactées. Les inscriptions terminent demain matin. Et à partir de demain, en fin de matinée, ce sera maintenant ma mère qui va vous contacter pour ceux qui n'ont toujours pas réservé votre place. Donc, on vous invite, il reste encore de la place, à nous contacter soit au 514-273-8295 ou sinon par le courriel de l'Église secrétariat EAJC à commercial@gmail.com. Vous avez une annonce qui relate la chose sur la page Facebook de l'Église. Donc, allez dérouler un peu l'écran vers le bas et vous allez avoir une annonce, une image bleue. Et dans cette annonce, vous allez avoir toutes les informations pour vous inscrire. Donc, vous avez jusqu'à demain matin pour le faire. Alors, sur ce, que Dieu vous bénisse. Bonne journée. On se retrouve ce soir pour la Sainte Cène à 19h. Au revoir tout le monde.